Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir d'accueillir Philippe Dessertines, professeur et directeur de l'Institut de Haute Finance. Philippe Dessertines, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir. Je sais que vous êtes extrêmement pris. D'ailleurs, vous rentrez d'Amérique.
Oui,
quel temps, dans tous les sens du terme, en Amérique.
Il faisait plus beau en termes de météo qu'en termes économiques, on va dire.
C'est ce que j'avais cru comprendre. Nous allons y revenir. Alors, vous venez de faire paraître chez Anne Carrière votre premier ouvrage, je ne me trompe pas, c'est bien le premier.
Oui, enfin, j'ai eu d'autres avant qui étaient vraiment un ouvrage grand public, on va dire.
Donc, un ouvrage grand public et avec un titre qui donne le ton général de cet ouvrage. « Ceci n'est pas une crise ». Juste la fin d'un monde. Donc la deuxième partie ramène à la réalité. Vous avez choisi la forme pamphlétaire. Pourquoi ? Peut-être pour dire que, en fait, la planète finance devient une gigantesque comédie ou...
Non, je crois que vraiment l'idée que j'avais en écrivant ce livre était de parler à tout le monde. C'est-à-dire que la finance est particulièrement accusée dans cette crise et dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Elle est souvent peut-être considéré comme le responsable principal. J'ai tendance à penser qu'elle joue aussi le rôle de bouc émissaire, parce que les choses sont moins simples que parfois on veut le résumer, soit dans les médias, soit d'ailleurs dans le monde politique, qui n'hésite pas non plus à charger fortement la responsabilité des financiers. Et donc mon idée était de présenter d'une part les événements, d'autre part les réflexions et peut-être aussi les perspectives, non pas simplement aux personnes qui travaillent dans la finance ou qui travaillent dans le milieu qui va comprendre immédiatement à quoi on fait allusion, mais vraiment d'essayer de parler à tout le monde, à toute la population, aux gens qui sont dans le milieu économique comme aux gens qui ne le sont pas, parce que je crois que cette crise concerne tout le monde. Elle a des origines dans le comportement de tout un chacun et pas simplement dans celui des financiers, et elle amènera demain, une réflexion qui devra être une réflexion, on va dire, de grande dimension, une dimension allant bien, bien au-delà du monde financier ou du monde économique. C'est un peu l'idée, juste la fin d'un monde, vous voyez, c'est de dire que vraiment, nous sommes en train de redéfinir peut-être la planète dans laquelle nous vivrons demain. Et cela, c'est important que ce ne soit pas les économistes dans leur coin qui réfléchissent à ça, ou de manière réciproque, qu'on réfléchisse à un mode de fonctionnement et que l'on essaie de plaquer de l'économie dessus. Donc c'est un peu l'idée, vous voyez, d'avoir un peu ce ton provocateur pour essayer de rassembler les différents publics.
En faisant allusion au fait que la science économique ne peut pas répondre toute seule à cette grande interrogation qu'est donc cette crise, enfin ce changement de monde, ceci me permet de rappeler que vous avez aussi récemment récidivé en tant qu'auteur en participant à une parution, la première pour le coup, de parution du Cercle Turgot, qui est présidé par Jacques-Henri David, et qui a précisément comme titre « Repenser la planète finance », une regard croisé sur la crise financière qui va paraître chez Erol en partenariat avec Les Échos. Et vous êtes un des contributeurs particulièrement remarqués. Donc ceci va dans le même sens, puisqu'effectivement, interviennent dans cet ouvrage collectif des représentants des sciences périphériques, l'histoire, la philosophie, la psychanalyse, les mathématiques, etc. Donc effectivement, vous confirmez ce que vous avez déjà indiqué dans cet ouvrage à paraître fin mars, donc en librairie. Alors, nous revenons donc sur votre ouvrage, et je vais quand même rappeler brièvement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense qu'il y en a peu, quel est votre parcours. Vous êtes docteur et agrégé de sciences de gestion, vous êtes professeur à l'Université de Paris 10 Nanterre, et vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur les organisations et la stratégie CEROS, et vous enseignez la finance, et vos travaux portent principalement sur l'information financière des entreprises, sur les marchés. Vous avez publié de très nombreux articles, et d'ailleurs récemment, un article qui a été très remarqué dans le Figaro, si je me souviens bien, dans lequel vous disiez que est-ce qu'il fallait s'appuyer pour la relance sur l'endettement. Alors peut-être avant de rentrer dans les détails de votre, dans les développements de votre ouvrage, peut-être un mot sur cette prise
oui,
de position.
Oui, d'ailleurs, c'est un point que j'aborde également dans, dans l'ouvrage, hein, sur la question de la relance et de la manière dont aujourd'hui les États doivent intervenir. Il est clair que les États doivent intervenir parce que nous sommes dans une situation qui est une situation absolument exceptionnelle pour laquelle quasiment on n'a pas de référence historique. Parce que même quand on évoque, par exemple, la crise soit des années 70, soit encore plus lointaine, la crise des années 30, nous sommes dans un contexte fondamentalement différent. Nous sommes dans une approche mondialisée, globalisée, que nous n'avions jamais connue dans l'histoire auparavant et qui nous amène donc à une crise, à vraiment un craquement général du système qui est un craquement généralisé et mondialisé. Donc les États doivent intervenir. Ils doivent intervenir pour aider, on va dire, les victimes et tous ceux qui vont souffrir de cette crise. Ils doivent intervenir aussi pour essayer, tant que faire se peut, de donner les conditions pour que les choses repartent. Mais il est évident qu'aujourd'hui, cette intervention passe par des mises de fonds, par des investissements qui sont absolument incroyables, qui sont dans des dimensions absolument extraordinaires. Donc, vous le disiez, j'étais à New York cette semaine, on a évoqué les deux travaux d'Hercule du président Obama, qui sont d'une part le plan de relance et d'autre part le plan de sauvetage des banques. Et là, nous sommes dans, à chaque fois, des dimensions qui sont le millier de milliards de dollars, c'est-à-dire presque un millier de milliards de dollars pour le plan de relance et probablement 2 à 2,5 hein, c'est-à-dire 2 500 milliards de dollars pour permettre aux banques de subsister. On est dans des dimensions qui, même aux États-Unis, à l'échelle du monde, sont absolument extraordinaires. Et donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour les États, eh bien, il y aura à payer un jour la note. Ça veut dire que ces dettes absolument incroyables que nous sommes en train de contracter pour simplement ne pas sombrer, elles vont avoir des conséquences, évidemment, pour la suite. Et ce serait une folie de ne pas en parler aujourd'hui, de ne pas évoquer les conséquences que cela va pouvoir avoir en termes de fiscalité, en termes de prélèvement, en termes, on va dire, de ralentissement obligatoire de la relance et de la croissance que cela pourra impliquer dans les décennies à venir. Donc ce sont des points, effectivement, qui semblent très importants d'aborder. Vous l'avez dit, moi je l'évoquais dans un article à la fin du mois de janvier. Je peux vous dire que vraiment cette question est absolument au centre des débats. D'ailleurs, aussi bien dans le camp républicain que dans le camp démocrate, en ce moment, actuellement, alors que les plans sont discutés. Il y a l'idée d'une intervention obligée, il y a l'idée des conséquences que cela va pouvoir avoir.
Vous aviez écrit aussi, puisqu'on parle de vos chroniques et de vos articles, en novembre 2004, dans Libération, « L'immobilier américain est la traînée de poudre menant au stock de dynamite sur lequel est assis le système économique international », dont vous aviez une vision particulièrement prédictive. Alors, selon vous, comment se fait-il que, alors qu'il y avait des signes avant-coureurs, l'immobilier américain, il y a quand même longtemps que tout le monde savait, comment se fait-il que la communauté, on va dire, financière de la planète finance n'ait pas réagi, ou est-ce qu'elle a joué l'autruche, ou qu'elle a véritablement cru que les arbres montaient jusqu'au ciel?
Oui, je crois qu'il y a vraiment, effectivement, quand on regardera du point de vue historique ce qui s'est passé, et donc ça méritera probablement une analyse très poussée, puisque, répétons-le, je crois vraiment que nous sommes à un tournant non seulement de l'histoire économique, mais de l'histoire du monde tout court. Donc il y aura vraiment cette idée, comment cela a été possible, comment un certain nombre de choses qui paraissaient aberrantes et qui se sont avérées aberrantes. Hein, et je dirais, j'évoque dans le livre, par exemple, la manière dont l'immobilier américain s'est développé, la manière dont on a prêté à des gens dont on savait qu'ils n'étaient pas solvables, en s'appuyant simplement sur la spéculation à la hausse de leur maison, en disant c'est l'augmentation de la valeur de la maison qui va rembourser le prêt et qui va payer les intérêts. Donc il y avait quelque chose de absolument fou, absolument presque, on va dire, surréaliste dans le mode de fonctionnement, et on peut se dire a posteriori, mais comment on ne l'a pas vu? Je crois qu'il y a eu une formule d'un président de banque qui était très intéressante, qui disait « Mais que voulez-vous, quand l'orchestre joue, vous n'avez d'autre solution que danser ?» Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les profits qui étaient dégagés par ce système économique, par ce mode de fonctionnement, et effectivement, on est un certain nombre à avoir écrit, et c'est vrai que vous évoquez des articles depuis des années. Alors, il y a dans les spécialistes, il y a un peu, je dirais aujourd'hui, les deux catégories. Hein, ceux qui avaient écrit, ceux qui n'avaient pas écrit. Mais de toute façon, tout le monde dit « je l'avais bien dit hein, ». Donc, on est d'accord que...
Reste à le prouver.
Voilà, il faut le prouver. Donc bon, moi, j'ai quelques articles, je peux dire, voilà, je les ai fait paraître à telle date, qui dit mieux.
C'est pour ça que
je
me permettais de...
Voilà, mais cela étant, même à ce moment-là, quand on évoquait ça, et je vais vous dire, pour avoir été aussi... d'ailleurs lié avec un certain nombre de collègues américains, parmi ceux qui a le plus tôt considéré que cette crise était gravissime. Même dans l'année 2007-2008, je me souviens que nous avions beaucoup de critiques qui nous disaient « mais vous exagérez, vous allez alimenter une peur panique, il ne faut pas exagérer, c'est une crise relativement classique dans le monde capitaliste, on va s'en sortir comme on le fait d'habitude, etc. » On a eu pendant très très longtemps, et on va dire c'est vraiment Lehman Brothers, hein, c'est septembre 2008 qui là a fait que tout le monde a dit « maintenant on arrête l'orchestre parce que c'est une catastrophe, parce que maintenant véritablement on est quelque chose que l'on n'a jamais vu ». Mais jusqu'à il y a très peu de temps, la prise de conscience était loin d'être générale. Et même, je vais vous dire, aujourd'hui, j'étais hier dans le bus, j'avais les oreilles qui sifflaient parce que j'avais des gens à côté de moi qui disaient « il y en a marre d'entendre ces médias qui parlent de crise tout le temps, cette crise c'est quelque chose qui est complètement inventé, on en profite pour faire passer des plans sociaux,
etc. » Et on trouve bien des milliards, etc.
Et on trouve bien des milliards, etc. Donc, je dirais, il a été très difficile de croire à quel point cette situation pouvait être une situation de la gravité de celle que nous connaissons. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il était extrêmement compliqué, en étant aux affaires, en étant dirigeant, de dire « moi, stop, je ne danse pas alors que la musique joue, mes actionnaires me suivent ».
Tout à fait, parce que s'il n'avait pas dansé, de toute façon, quelques temps après, il aurait été remercié parce qu'il aurait été moins compétitif
bien
à
entendu.
Court terme que
bien
les
bien
autres.
Entendu.
Donc, tout le monde se tenait par la barbichette.
Toutes les banques classiques qui, effectivement, j'utilise parfois cette métaphore qui vaut ce qu'elle vaut et qui est peut-être un peu excessive, en disant la dette mondiale et l'utilisation de la dette, c'était une sorte de poudre blanche euphorisante, si vous voyez à quoi je fais allusion. Je dirais tout le monde y a touché. Tout le monde y a touché. Bien entendu, évidemment, les banquiers américains et les banquiers
plus
dérégulés,
les autres,
mais les banquiers européens, lorsqu'ils avaient dans leur activité classique de prêt des taux d'intérêt anormalement bas, artificiellement maintenus bas, ça signifiait quoi ? Que leur activité traditionnelle ne rapportait pas, qu'ils n'étaient pas rentables, et que s'ils n'allaient pas toucher eux aussi un peu de cette poudre extraordinaire qui circulait dans toute l'économie mondiale,
Ils étaient relégués en deuxième division.
Ils allaient faire de tels résultats que c'était même pire encore. Ils allaient se faire racheter par les banques qui, justement, elles, n'hésitaient pas à utiliser ça. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un système où, là, on revient d'ailleurs aux solutions qu'on envisage, dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui sont les solutions autour de la régulation. Moi, je travaillais sur les problèmes de la régulation de la SEC en 92-93. J'ai fait mon post-doctorat aux États-Unis sur ce sujet, en rencontrant la SEC américaine, c'est-à-dire un des organismes de régulation, et en voyant un petit peu comment on pouvait essayer de l'envisager en Europe. Eh bien, cela, il y a encore très très peu de temps, on le regardait en disant « oui, mais attention, il ne faut pas que la régulation intervienne trop. »
Tue le libéralisme.
Voilà, exactement. Donc, on était dans un système où, je dirais, on avait quasiment... D'abord, un, pas le choix, et deux, pas envie, véritablement, de voir à quel point nous prenions des risques. Et pour aller jusqu'au bout, et vous voyez, c'est pour ça que j'ai rédigé cet ouvrage dans le langage, en tout cas j'ai essayé,
accessible,
dans un langage accessible de tout le monde. C'est que tout le monde a touché un peu de la poudre blanche en question. Nous avons tous acheté des maisons, des écrans d'ordinateur, des télévisions.
Profiter des taux bas,
À crédit. On était tous très contents de financer 100% de la maison. Personne ne vous disait rien, y compris en France. Il faut être bien clair. Bien sûr, aux États-Unis, ça a été fou. Mais en France, il y a encore quelques mois, vous alliez voir la banque. Vous arriviez avec vos 3 bulletins de salaire, pas plus. On n'avait regardé pas vos incidents qui s'étaient passés. Vous aviez 3 coups d'imprimante et hop, vous aviez votre emprunt. Et là, tout le monde trouvait ça formidable. Et notre économie vivait de cela, car il faut être bien clair. Après, on finançait les travaux. Eh bien, évidemment, vous aviez plein d'entreprises qui allaient utiliser ça. L'autre jour, j'étais dans un débat avec un ancien président d'une très grande compagnie européenne. Non, industrielle, qui fabrique des avions. Bon, il n'y en a pas 36
000. D'accord, oui, on voit à peu près de quoi il s'agit.
Donc, qui était dans le débat télévisé, pas le président actuel. Qui était dans le débat télévisé en disant « il va être temps que les banques refassent leur métier et qu'elles prêtent à l'industrie ». Je le regardais en disant « mais c'est quand même extraordinaire que cette compagnie qui produit des avions de ligne, que je sache les avions de ligne pendant des années et pendant
ils
toutes les années,
financés par qui ?
Ont été financés entièrement par cette dette folle qui circulait. Et leur mode de fonctionnement et leur mode de développement, c'était pas d'être payé cash par les billets des gens transportés.
Oui,
c'était bien utiliser à fond la dette, à utiliser ce que l'on appelle en finance l'effet de levier. C'est-à-dire, au lieu de produire un Airbus, ça y est, le nom est lâché, on pouvait en produire 10 avec le même financement, grâce à la dette. Et donc, eh bien, toute l'économie européenne, internationale, occidentale, a été irriguée par cette dette. Et aujourd'hui, évidemment, toute l'économie a la gueule de bois. Et c'est bien la raison pour laquelle ce n'est pas simplement qu'une crise financière, c'est une crise qui touche tous les secteurs économiques, y compris et peut-être même avant tout les secteurs industriels.
Oui. Et alors justement, vous prenez des positions qui peuvent paraître un peu iconoclastes sur le plan de la responsabilité. Et vous, vous dites, vous prenez des positions, comment dirais-je, d'une perception plus juste du rôle des banques qui ont une responsabilité, mais vous associez cette responsabilité à l'État. Donc c'est un binôme dans votre approche, entre autres, hein, donc c'est pas la seule responsabilité. En gros, votre thèse, c'est de dire elles ont toutes... La responsabilité est partagée, c'est vous, moi, le système bancaire, l'État, etc.
Oui, je vais même plus loin, je crois que vraiment, et voyez, ce n'est pas forcément la volonté de défendre les banques, donc j'attaque aussi, hein, j'évoque beaucoup
le système
des banques dérégulées, là tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les banques classiques qui vont vers les produits dérégulés et qui ont tendance
qui
à les amplifier.
Toucher de la blanche.
Mais il faut être bien clair, au départ, c'est une volonté politique, c'est-à-dire l'approche de dire le système est devenu fou et a au fond probablement, sans qu'on s'en rende compte, secréter les éléments qui vont le conduire à sa perte. Cette hypothèse-là, à mon sens, ne tient pas quand on regarde les faits. Quand on regarde les faits, il y a eu un certain nombre de décisions politiques. Et là, c'est vrai qu'évidemment, il faut interpeller les États-Unis. Parce que ces décisions politiques, elles ont été d'abord aux États-Unis. Elles ont été de dire, eh bien, puisque dans le contexte de la mondialisation que nous avons contribué à créer, qui n'était que la seule solution pour véritablement continuer à fonctionner à partir du moment où la guerre froide était terminée, nous ne pouvions pas laisser au bord du chemin des milliards d'individus en disant bah, l'Occident continue à se développer et nous vous laissons de côté. À partir du moment où la globalisation était lancée, elle signifiait par définition que l'Occident allait perdre en pouvoir d'achat. Eh bien, politiquement, les États se sont rendus compte que ce n'était pas un message audible. Et donc, politiquement, ils ont sciemment décidé de dire « nous allons remplacer le revenu par la dette ». Et aux États-Unis, ça a été la politique de M. Greenspan de dire « je baisse les taux d'intérêt ». Quand on dit « je baisse les taux d'intérêt », c'est une décision artificielle. Les marchés, s'ils avaient été laissés... Et là encore, nous avons évoqué tout à l'heure la régulation. Je ne me fais pas l'apologie de marchés qui fonctionneraient par eux-mêmes. Mais là, c'est une intervention extérieure qui dit « je baisse les taux parce qu'il faut que les gens empruntent davantage ». Ça a été une volonté absolument et politique et délibérée. Et allons plus loin. Cette volonté politique a été relayée ensuite par une volonté, là aussi, avec des décisions prises au Congrès américain. Donc, je le situe et j'évoque notamment la date de 1999, quand, sous l'administration Clinton, on décide d'abroger la loi qui s'appelle Glass-Steagall, hein, c'est-à-dire la loi, on appelle en anglais Glass-Steagall Act, qui avait été prise en 1933. C'est une loi abrogée en 1999. Pourquoi elle avait été constituée en 1933 ? Pour protéger le système économique des dérives bancaires, pour éviter que revienne la crise de 1929. Donc on a fait sauter les protections qui avaient été mises en place
La barrière, hein, donc, rappelons-le pour nos auditeurs, c'était la barrière entre les banques de dépôt et les banques d'investissement.
Voilà, c'est ça. C'était l'idée de dire, attention, les métiers financiers peuvent effectivement rentrer dans une perspective qui peut être dangereuse, et donc on va essayer justement de les encadrer. Eh bien ça avait été mis en place du point de vue légal, politiquement, on l'a fait sauter. Eh bien évidemment après, quand vous avez eu ces effets combinés, notamment de la baisse des taux qui a été encore plus forte à partir de 2001. Il faut se souvenir que quand Alan Greenspan a pris sa retraite fin 2005, début 2006, il était fêté partout, y compris en Europe, y compris en France, où là, d'ailleurs énormément de journaux.
Comme l'homme du siècle.
Ah mais bien sûr, on a dit, mais je le dis d'ailleurs dans le livre, probablement que les oreilles de Jean-Claude Trichet ont dû siffler à l'époque en disant, quelle tristesse que nous n'ayons pas eu un homme de cette trempe à la tête des institutions monétaires européennes. Hein, donc aujourd'hui, Greenspan, on considère que c'est le banni, que c'est lui l'origine de la crise. Et probablement a raison. Mais soyons clairs, tout le monde était derrière lui. Le système était derrière lui. Les hommes politiques américains, les citoyens américains. Et on peut l'élargir, on va dire, l'approche économique mondiale était derrière lui. Donc il y a une responsabilité qui est une responsabilité, on va dire, collective, sciemment orchestrée, politiquement orchestrée, et qui effectivement a débouché sur la folie bancaire. Mais voyez, pensez que le bouc émissaire, les banques ou la finance est à l'origine de la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord, un, leur faire trop d'honneur, parce que même s'ils l'avaient voulu seul, ils n'auraient pas pu orchestrer un système comme celui-là. Et puis, à mon avis, c'est justement refuser d'ouvrir les yeux, refuser de comprendre que la conséquence de cette hypothèse, de dire « nous sommes tous responsables », ça veut dire que tous, nous avons à changer notre approche. Et la crise, elle va d'abord nous amener vers un nouveau monde où nous devons réfléchir à notre façon de fonctionner, à notre façon de consommer, à notre façon d'épargner.
Alors, nos auditeurs ont compris que la première partie de votre ouvrage, qui est un diagnostic sans concession, est fait aussi avec passion. Et nous allons donc aborder dans une deuxième partie les solutions que vous avancez pour sortir de ce que vous avez appelé un des plus grands cataclysmes de l'histoire, ou panthéon, donc des plus grands cataclysmes de l'histoire. A tout de suite.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Eh bien, chers amis, nous reprenons notre entretien avec le professeur Philippe Dessertine pour son remarquable ouvrage qui était très attendu puisqu'il vient de paraître maintenant en librairie et qui était donc publié par Anne Carrère. Ceci n'est pas une crise, juste la fin du monde, qui fait donc un peu plus de 200 pages, si mes souvenirs sont bons. Alors, nous avons dans un premier temps abordé la partie donc diagnostic, où vous avez renvoyé chacun devant ses propres responsabilités. Et donc maintenant, on en sort comment ? Parce que là, effectivement, vous disiez qu'un astéroïde a frôlé la Terre. Il n'y a pas de chance que carrément il la rencontre à nouveau, la Terre. On pensait qu'on est passé.
Non, il continue à tourner incontestablement. Ouais. J'utilise cette formule pour la période qui a été la période, on va dire, de paroxysme vraiment de la crise que nous avons connue l'année dernière, il y a quelques mois, c'est-à-dire au moment de la faillite de Lehman Brothers. Où cette décision totalement aberrante, folle, a été prise par les autorités américaines, qui était probablement, et là c'est aussi un point d'ailleurs que je développe dans le livre, parce qu'à mon avis c'est un point sur lequel il va falloir réfléchir, qui était laissé complètement en liberté par une administration américaine qui, ça tombait mal, était en période électorale. Donc on a eu une conjonction absolument incroyable. Et là, on a été vraiment au moment où le système économique mondial a été deux doigts d'exploser. Et vraiment, on n'est pas passé loin. Donc là, on a eu ce paroxysme que l'on a réussi à juguler, mais pas encore définitivement. Et là, aujourd'hui, nous nous situons en février 2009. En février 2009, eh bien, le plan, par exemple, de Tim Geithner, qui a été présenté la semaine dernière, le nouveau secrétaire d'État au Trésor du président Obama, a pour but d'essayer justement de consolider les systèmes bancaires qui peut encore aujourd'hui exploser. Nous sommes encore dans une situation qui peut dégénérer rapidement. Bon, cela étant, l'expérience de Lehman Brothers a quand même pas mal servi.
Et vous y pensez, vous y croyez, vous, à la solution de la bad bank ?
La bad bank, c'est-à-dire l'idée d'isoler les actifs toxiques des grandes banques pour essayer de restaurer la confiance, est, semble-t-il, la seule solution aujourd'hui pour réellement purger le système. Du point de vue technique, elle est éminemment complexe à mettre en œuvre, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, elle va être éminemment coûteuse. C'est-à-dire, là, elle va coûter extrêmement cher aux États et extrêmement cher aux banques, parce qu'il est clair qu'une partie du coût devra être supportée par les institutions financières.
Et la vraie question, c'est de savoir à quel prix les actifs seront payés.
Absolument.
Prix à la case, bien entendu.
Exactement. Donc je veux y croire, même si techniquement, elle sera très très difficile. André Lévy-Lang, un ancien prix turc, s'est prononcé, lui, en faveur de cette solution. Il a raison, mais bon, c'est l'ancien président de Paribas, donc il connaît un peu le sujet. Mais cela étant, on voit aujourd'hui, quand on veut l'appliquer aux États-Unis, la complexité gigantesque, le coût énorme que cela va signifier pour l'économie. Et je dirais le côté encore aléatoire de la réussite.
Mais c'est peut-être le prix à payer pour que la confiance, entre guillemets, pénètre à nouveau le système. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est quand on ne sait plus du tout, plus personne ne sait exactement quel est le degré de pollution sous-jacent du système.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, donc nous avons à gérer ce cancer qui ronge le système financier actuellement, qui est vraiment gravissime et qu'il va falloir traiter avec la dernière énergie et avec probablement des moyens absolument considérables. Nous avons également à gérer la crise pour l'ensemble des acteurs. Et donc là, vous voyez, vous évoquiez tout à l'heure les solutions. Avant cela, nous allons avoir des mois, il faut parler de trimestres, et même il faut parler, puisque le président presque Obama vient de l'évoquer, il faut parler d'années. Mmh. Nous allons avoir des années de crise à gérer. Alors, gérer la crise, il faut bien comprendre que c'est quelque chose... La crise n'est pas... Et dans l'imaginaire, évidemment, on aurait tendance à l'associer, par exemple, à un krach boursier. Mmh. Tout d'un coup, on a une tempête qui balaye l'économie, après, tout est en ruine, et après, on reconstruit. La crise, c'est pas ça. La crise, c'est des mois d'inondation, hein, si on doit l'associer, vous voyez, à un cataclysme naturel.
C'est une courbe en U, quoi.
Voilà, c'est un moment pendant lequel, pendant des mois, l'économie est en dysfonctionnement. Donc, il va falloir gérer ce moment-là. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises souffrent de manière terrible, des secteurs économiques souffrent, d'autres vont gagner. Nous avons des secteurs qui vont gagner, des entreprises dans des secteurs en difficulté vont survivre, on va dire dans le quotidien des gens. Évidemment qu'il y aura des changements, notamment malheureusement pour les personnes qui vont être touchées de plein fouet, dans leur emploi par exemple. Le chômage augmente aux États-Unis de manière considérable, il augmente en France, il va augmenter dans les prochains mois, donc là on aura des conséquences. Mais il n'empêche que l'activité continuera. Et c'est un message, bien sûr, qu'il faut dire, par exemple, aux jeunes gens. Les jeunes gens, aujourd'hui, que moi, j'ai dans mes cours, qui viennent me dire, mais quel avenir j'ai ? Je leur dis, mais vous avez un avenir. Vous avez à comprendre que vous êtes dans des circonstances difficiles, mais que ces circonstances difficiles vont malgré tout vous ouvrir des perspectives. Vous aurez à trouver votre place, vous avez à y penser, vous avez à gérer, vous aussi, ce quotidien plus compliqué que nous allons avoir. Donc là, nous avons à gérer le problème bancaire, nous avons à gérer... les entreprises, l'économie d'un point de vue général, l'attitude que va avoir l'économie par rapport à cette période complexe. Ça veut dire évidemment que lorsqu'on annonce des profits très importants pour certaines entreprises, on pense par exemple aux pétrolières qui ont beaucoup gagné d'argent avec les fluctuations des matières premières l'année dernière, elles ne peuvent pas considérer que ces profits sont des profits habituels dans une période normale. Ce sont des profits extraordinaires, il va falloir tenir compte de la période et regarder comment ces profits peuvent être aussi mis à contribution pour aider l'économie mondiale à sortir de l'ornière. Donc nous sommes dans une période où il va falloir gérer cette période. Et gérer cette difficulté n'est pas forcément facile. Et là, un certain nombre de solutions doivent être envisagées. En tenant compte de ce que l'on évoquait tout à l'heure par rapport à l'État et à l'endettement de l'État, en tenant compte évidemment que cette période est aussi extraordinaire et que les solutions classiques de relance keynésienne, etc., qui peuvent être des tentations habituelles dans des situations comme celle-là, ne fonctionnent pas forcément. Après, il y a la réflexion à plus long terme qui peut être engagée.
Alors, dans la réflexion à plus long terme, vous parlez de réinventer les termes de l'échange, qui revient à poser la question de la contrepartie de la subvention publique. Alors, d'une façon générale, hein, donc pas simplement qu'en France, je pense. Et ça veut dire quoi, en clair ?
Ça veut dire, en clair, que là, nous évoquions tout à l'heure le nouveau monde qui est en train d'apparaître. Je crois que, et c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement complexe à faire passer, mais nous sommes à l'aube de la redéfinition du contrat social. Du contrat social entre les acteurs, entre eux, entre les acteurs et la puissance publique, entre les acteurs et la puissance publique internationale. Nous ne pourrons plus fonctionner comme nous avons fonctionné dans le passé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est encore diffus, que les gens commencent à sentir aussi bien quand ils sont, comme vous et moi, dans leur mode de fonctionnement quotidien, que lorsqu'ils sont responsables d'entreprises. On l'a vu avec ces affaires un peu ahurissantes de bonus ou de dividendes en fin d'année, les dirigeants de grandes structures...
Qui n'ont pas encore compris qu'ils avaient changé de monde.
Exactement. Ouais. Ou les hommes politiques, ou les responsables politiques, qui, là aussi, ont du mal à appréhender ces nouvelles conditions. Eh bien, ces nouvelles conditions, elles vont passer, effectivement, par une redéfinition de la relation entre les acteurs. Un nouveau contrat social, en disant, attention, l'État doit intervenir, une puissance publique, une gouvernance internationale doit se mettre en place. Elle aura des interventions, elle aura des coûts. Les coûts, il faudra les payer quand on sera en vache grasse, parce qu'ils seront extrêmement importants lorsque nous serons en vache maigre. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous n'avons pas préparé, dans la période d'immense prospérité que nous avons connue, nous n'avons pas préparé le moment où nous allons nous trouver en difficulté. Eh bien, c'est cela qu'il faut mettre en place. Eh bien, ça veut dire effectivement repenser à des choses qui auront des impacts pour les entreprises, pour les États, et pour les individus. Et je crois qu'il faut, effectivement, je l'aborde dans le livre, et c'est peut-être difficile à faire passer, mais en disant oui, demain, lorsque l'État va apporter à l'individu, eh bien, le contrat social nouveau supposera probablement que l'individu doive apporter à l'État. Là, vous voyez, je suis très Kennedy en disant ça.
Absolument. D'ailleurs, vous renvoyez un petit peu les deux écoles de pensée économique dos à dos en disant qu'aucune des deux ne détient totalement la vérité. Enfin, ça, mais on laisse les auditeurs découvrir ce passage. passage qui est assez croustillant. Alors, dernier point, bien entendu, vous pensez que l'Europe moderne est aussi une forme de réponse, en tout cas en avenir, en potentiel, à cette situation extraordinaire que nous rencontrons.
Je crois que l'Europe a une place qui va être une place extrêmement importante, parce que pour redéfinir le monde nouveau et pour empêcher que cette crise ne débouche sur des désordres beaucoup plus importants et plus difficiles à maîtriser, il sera absolument indispensable d'asseoir autour de la table tous les puissants, y compris les États-Unis. Et l'Union européenne peut avoir une place là, de ce point de vue, très forte, puisque l'Union européenne, il faut toujours le rappeler, est l'équivalent en termes de puissance économique des États-Unis, même un peu plus importante. Elle a évidemment une approche politique différente, qui est une approche multiple, donc évidemment donnant une visibilité, un poids beaucoup moins fort aux Européens qu'aux Américains. Néanmoins, le modèle qu'elle propose, qui est un modèle justement de rassemblement à l'intérieur d'une unité d'un certain nombre de pays, riches et moins riches, importants et moins importants, peut-être justement un modèle vers lequel on pourrait tendre. Et là, il est clair que l'Union européenne peut avoir une place à jouer. Elle a eu un rôle très important, on l'a évoqué tout à l'heure, dans le moment crucial où il a fallu sauver le système. L'Union européenne, on peut dire, a sauvé le système lors de ce fameux week-end d'octobre où l'Union a annoncé le plan de sauvetage des banques qui a permis aux marchés d'arrêter leur effondrement. Et bien demain, dans le plus long terme, et ce qui sera plus compliqué évidemment, il y aura à négocier, il y aura à amener les Américains à la table de réflexion puisqu'ils ont été en cause dans les origines de cette crise. Il faudra qu'ils travaillent avec nous sur la manière d'éviter ces conséquences ou de limiter ces conséquences et d'éviter que cette crise ne se reproduise. L'Union européenne sera probablement un acteur et doit être un acteur fort. Si elle ne jouait pas ce rôle, personne ne pourra le jouer à sa place et les conséquences pourraient être relativement désagréables.
Je lis d'ailleurs votre conviction, page 165, mais finalement l'Europe avance. L'Europe maintient son objectif envers et contre tous, celui de favoriser les échanges dans la démocratie et surtout dans la paix. Et donc c'est sur ce mot d'optimisme que nous allons conclure. C'était un grand plaisir de vous rencontrer, donc, professeur, pour la parution de votre dernier ouvrage. Ceci n'est pas une crise, juste la fin du monde, chez Anne Carrère. Merci à vous, professeur.
Merci.
Au revoir, Philippe Dessertine.
Merci beaucoup.